Donc nous reprenons notre dernier après-midi de ce colloque « La reconstruction de la raison », dialogue avec Jacques Bouvresse. Et nous allons écouter Jean-Jacques Rosa, qui est maître de conférence au Collège de France et qui est le maître d'œuvre de ce colloque. Alors je pense qu'on est, lui est tous très redevables, très reconnaissants pour cette très belle organisation, cette magnifique initiative. Et on l'écoute tout de suite nous parler de user de sa raison en philosophie.
Merci. Comment bien user de sa raison en philosophie? Alors j'ai cherché des réponses à cette question dans les livres de Bouvresse. De mes lectures, j'ai tiré des leçons. Et en voici 8 pour aujourd'hui. Je ne pourrais donner ici que des linéaments de chacune d'elles qui mériteraient presque un exposé chacune. Tous les textes que je citerai, je vais en citer beaucoup, selon une mauvaise habitude, sont des textes de Bouvresse, ou sont des textes que Bouvresse cite, mais le découpage de ces citations, leur agencement, j'aurais envie de dire presque le montage, le commentaire que j'en donne, les enseignements que je crois pouvoir en tirer, sont exclusivement les miens et ne sauraient évidemment lui être imputés. Première leçon des dictateurs. Dans « La science sourit dans sa barbe », le premier essai qu'il a écrit sur Mouzil en 1978, Bouvresse écrit « L'exercice de la philosophie requiert un tempérament dictatorial et guerrier dont Ulrich, le héros de l'homme sans qualité, est foncièrement dépourvu. » Citation de Mouzil, les philosophes sont des violents qui, faute d'avoir une armée à leur disposition, se soumettent le monde de la manière qui consiste à l'enfermer dans un système. » Bouvresse poursuit, l'entreprise philosophique tend naturellement à la constitution d'une vision du monde achevée et définitive qui représente l'équivalent de la tyrannie politique dans l'ordre de l'esprit. Une victoire spirituelle, remarque Mouzil, est à proprement parler plus effroyable qu'une victoire guerrière. Et Bouvresse continue, un philosophe conséquent, c'est-à-dire qui n'accepte pas seulement la guerre, mais également le risque de la gagner, appartient toujours, réellement ou potentiellement, à la race des dictateurs spirituels dont le règne a précédé, selon Mouzil, celui des dictateurs politiques. Aux protestations indignées des philosophes professionnels, Mouzil aurait répondu que c'est toujours ce qui peut subsister d'indécision, d'inachèvement et d'ouverture dans une doctrine philosophique qui est considérée comme le moins philosophique en elle. De ce point de vue, l'art, tel qu'il le conçoit, s'oppose directement aux activités idéologiques comme la religion et la philosophie. Alors supposons que quelqu'un partage le jugement de Mouzil et en trouve dans le monde philosophique où il vit toutes les confirmations possibles, mais qu'il ne se sente personnellement aucun goût pour l'exercice de la dictature et qu'il en rejette même absolument l'idée pour des raisons intellectuelles, morales et politiques. Et pourtant, à la différence d'Ulrich ou de Mouzil, il n'opte ni pour une science, ni pour la littérature, mais obstinément pour la philosophie. Que fera-t-il? Peut-il être un philosophe conséquent? Est-il possible, dans l'univers dictatorial et guerrier de la philosophie, de survivre et de combattre en s'interdisant les armes de la domination sur les esprits? Est-il possible de faire reconnaître que l'indécision, l'inachèvement, l'ouverture ne sont pas des faiblesses, mais les qualités, les exigences le mieux accordées à l'état des problèmes philosophiques et peut-être même à leur nature. Alors on voudrait se rassurer en se disant que sitôt qu'elle s'appuie sur la seule raison, la philosophie cesse d'être une activité idéologique, mais de Platon à Hegel, les dictatures philosophiques au nom de la raison n'ont pas manqué. Et surtout, la philosophie n'est pas une science, tout à la fois productrice d'idées et critique d'idées, elle ne saurait s'immuniser contre l'idéologie, comme contre un corps étranger. Elle exige du philosophe qu'il assume ce qu'il y a d'irréductiblement idéologique en elle. Deuxième leçon, de la désorientation. Les problèmes philosophiques naissent d'une expérience de désorientation dans nos concepts. Dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», une conférence qu'il a prononcée dans les premiers jours de l'année 2000, Bouveresse reprend à son compte cette idée de Wittgenstein. L'expérience philosophique par excellence est celle de l'homme qui, à un moment donné, dit « je ne sais plus où j'en suis » ou « j'ai perdu mon chemin ». C'est en l'occurrence le chemin qui permettrait de s'orienter dans son propre langage qui a été perdu. Aussi, en philosophie, l'incertitude est radicale, principielle et permanente. Ce qui est caractéristique de la philosophie, je cite encore, est qu'à la différence de ce qui se passe ailleurs, et notamment dans les sciences, l'incertitude descend dans n'importe quelle question jusqu'à la racine. Et pourrait-on ajouter, rien ne permet d'être certain qu'elle pourra être surmontée. Autrement dit, il n'y a pas en philosophie de principe initial solide et assuré, pas de point d'Archimède, et on peut douter que les problèmes philosophiques aient une solution unique. Il n'y a aucun consensus en philosophie et aucune raison de croire qu'ils puissent et même peut-être qu'ils doivent y en avoir un. Je cite, « La philosophie n'est pas le lieu d'un consensus quelconque, ne serait-ce que sur les principes les plus fondamentaux, mais au contraire, celui du désaccord et du conflit non résolu et probablement irrésoluble entre des opinions et des réponses qui sont incompatibles. » Il n'y a donc en philosophie ni commencement véritable, ni conclusion peut-être. Au point de départ, on est déjà in medias res, on se retrouve ailleurs, mais jamais à bon port à la fin de l'exercice, et donc in medias res encore, et j'aurais envie de dire que tous les essais de Bouveresse reconnaissent cette situation, nous font partir au milieu des problèmes et nous laissent avec un certain nombre de problèmes sur les bras à la fin. L'impossibilité d'une indécibilité des problèmes philosophiques n'est pas en elle-même un argument contre leur réalité. Elle ne le deviendrait, soutient Bouveresse dans la demande philosophique, que si l'on supposait en outre qu'il n'y a de questions réelles que là où il existe une possibilité de principe, ou mieux encore, une possibilité pratique de réponse. Mais, poursuit-il, Valéry fait remarquer que c'est peut-être précisément là où l'excédent des questions que l'on peut formuler sur les réponses que l'on peut espérer obtenir est le plus manifeste, que l'intelligence, la créativité, l'ingéniosité humaine ont trouvé le mieux à s'exercer et se sont révélées les plus productives. Et, ajoute Bouveresse, on pourrait même se demander si cet excédent ne définit pas justement l'espace de la culture, proprement dite, considéré comme une tentative de réponse aux questions qui, à strictement parler, une tentative de réponse aux questions qui, à strictement parler, n'ont pas de réponse. Alors, l'expérience de désorientation qui est à la source de l'activité philosophique incite à chercher recours auprès des maîtres et des guides, offrant alors prise évidemment aux dictateurs, ou bien à adopter une doctrine ou une théorie bien établie pour ne s'engager que sur un chemin qu'on croit assuré parce qu'il est déjà balisé. Mais la philosophie en tant que telle n'a pas de chemin à offrir à celui qui est désorienté dans ses concepts, parce que, comme Bouveresse le souligne, elle n'a pas de pouvoir intellectuel qui lui serait propre. Je cite, toujours, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, ou comment s'orienter dans la pensée ? Il n'y a pas de raison de croire que ce qui fait du philosophe un philosophe est le fait de disposer par essence d'une capacité supérieure à s'orienter et à orienter les autres. Le philosophe, et il faut comprendre ici, selon l'expression de Wittgenstein, le philosophe qui est en chacun de nous, n'est pas mieux orienté, mais au contraire plus désorienté que le non-philosophe. Autrement dit, le philosophe n'a pas de sens de l'orientation, un peu miraculeux, spécifique, ni d'autres moyens que tout un chacun. Troisième leçon, des raisons justificatives, dont il a été longuement question ce matin, je vais être un peu sommaire, à côté de ce qui s'est dit ce matin. À la question « comment s'orienter dans la pensée ?», il n'y a pas d'autre réponse que celle des Lumières, oser se servir de sa raison. Cette maxime marque que la philosophie est une activité irréductiblement personnelle. C'est moi qui me sers de ma raison, et aucune puissance intellectuelle, politique, religieuse, morale, ni personne d'autre ne peut le faire à ma place. Mais que faut-il entendre par ma raison ? La raison une et universelle qui est en moi comme en chaque être humain ? Cette réponse du rationalisme classique est difficilement recevable. Et sur ce point, Bouveresse partage la position de Putnam dans « Raison, vérité et histoire ». « Je ne crois pas, écrit celui-ci, que la rationalité soit définie par un ensemble de canons ou de principes invariables, je suis d'accord avec les philosophes subjectivistes pour dire qu'il n'y a pas d'organon anhistorique qui définit ce que c'est qu'être rationnel. Mais les exigences classiques d'universalité et d'objectivité n'en sont pas pour autant affaiblies. Ma raison, certes, ce n'est rien d'autre que ma capacité à étayer mes croyances et mes actions sur des raisons, mais celles-ci sont à entendre au sens fort, frégéen, de raisons justificatives et pas seulement explicatives, autrement dit de raisons non réductibles à des causes psychologiques, sociologiques ou historiques. Le noyau du rationalisme est là. L'idée est clairement affirmée dans la philosophie, dans le philosophe chez les autophages. La distinction entre les causes psychologiques, psychanalytiques et autres de la croyance et de l'action, et les raisons objectives qui les justifient, est le postulat de base sur lequel repose toute espèce de rationalisme. Idée qui est développée dans l'article dont il a aussi été question ce matin, la causalité des raisons. Toutes les raisons explicatives, au nombre desquelles il faut faire figurer les causes diverses auxquelles on peut imputer la forme d'une croyance, ne sont pas des raisons justificatives, autrement dit, des raisons au sens propre de la croyance. Bien qu'elles n'agissent qu'en devenant à un moment donné des raisons pour quelqu'un, les raisons sont en elles-mêmes impersonnelles et indépendantes des circonstances, du lieu, du moment. À la différence des causes, elles ont une relation interne à la vérité et peuvent justifier la croyance parce qu'elles garantissent la vérité de la proposition qui est crue ou, en tout cas, augmentent sérieusement ses chances d'être vraies. Alors, qu'en est-il des raisons en philosophie ? Il y a ce sujet chez Bouveresse, me semble-t-il, deux lignes directrices divergentes, sans être incompatibles, et qui correspondent à deux manières de traiter les problèmes et qu'ils combinent souvent sans, cependant, tout à fait les mêler. La première orientation peut être dite, de manière peut-être un petit peu simpliste, frégéenne. Elle découle de la relation interne entre raison et vérité qui vient d'être rappelée, puisque depuis, Jacques Bouveresse l'a redit ce matin d'ailleurs, d'une autre manière, puisque depuis 2500 ans, les philosophes avancent des affirmations ou nient celles des autres en émettant des objections, il s'agit sur chaque problème d'examiner les affirmations en présence et de se demander quelles raisons on peut avoir de les juger vraies ou fausses. Et dans la demande philosophique, il déclare très explicitement qu'il opte en philosophie pour une conception moléculariste, autrement dit proposition par proposition, si on veut, des propositions contre une conception holiste, et pour une notion de vérité qui ne peut pas, dit-il, être fondamentalement différente de la notion usuelle et doit être plus du type vérité-correspondance que du type vérité-cohérence. Je cite « Qui peut citer, s'est demandé Badiou, un seul énoncé philosophique dont il y ait un sens à dire qu'il est vrai ?» Mais celui qui a lu Frege dira que si P est une proposition de forme assertorique et s'il y a un sens à dire que P, il y a certainement un sens à dire qu'il est vrai que P ou que P est vrai, puisque la pensée qu'il est vrai, par exemple, que les nombres sont des objets non sensibles, ne contient rien de plus, rien de moins, que la pensée que les nombres sont des objets non sensibles. La seconde orientation peut être dite, elle, wittgensteinienne, c'est qu'étant donné la nature des problèmes qu'on rencontre en philosophie, les raisons ne peuvent y être démonstratives. Elles ont toujours un caractère aspectuel. L'idée est clairement exprimée dès la rime et la raison. La manière dont on peut convaincre quelqu'un de quelque chose en philosophie ressemble beaucoup à la manière dont on peut amener quelqu'un à une certaine position sur un problème éthique ou esthétique, et bien peu à ce qu'on appelle d'ordinaire une démonstration ou une preuve. Un mathématicien ne fait pas de la propagande pour ses théorèmes, mais un philosophe fait toujours, en un certain sens, de la propagande pour ses idées et ses théories. Et un peu plus loin, il est essentiel que les raisons puissent persuader et également ne pas persuader. Et il me semble que la tension entre ces deux manières d'utiliser sa raison en philosophie n'est pas sans rapport avec la position instable et singulière que celle-ci occupe entre science d'une part et art de l'autre, une position qui est assez clairement assumée dans la demande philosophique. On ne peut pas considérer autrement que comme des échecs caractérisés toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'ici pour faire tomber définitivement la philosophie soit du côté de la science, soit du côté de la création littéraire et de l'art. Quatrième leçon, excuserai, je vais un peu vite sur chacun de ces problèmes-là, de la critique. Alors, à la différence des causes, dont la recherche enclenche une régression potentiellement infinie, les justifications ont une fin. Toute recherche de raisons justificatives bute rapidement sur le socle de l'injustifié. On lit ainsi dans La rime et la raison, « Nous ne pourrions jamais donner de raison s'il n'y avait des raisons que nous utilisons sans en demander raison, qui sont bonnes en elles-mêmes et non pas pour d'autres raisons, qui justifient sans avoir à être justifiées. Nous ne pouvons répondre à la question « Pourquoi croyons-nous ou disons-nous ou faisons-nous cela dans certains cas ?» que pour autant que nous n'y répondons pas qu'elle n'a pas de sens dans d'autres cas. Il y a toujours en fait quelque chose qui doit être accepté d'abord, si l'on veut pouvoir simplement chercher des raisons, un langage, une culture, une forme de vie, et cela même si l'on cherche des raisons pour imposer précisément un changement de langage, de culture, de forme de vie. Ça veut dire que toute recherche d'un lieu, d'un principe, d'un point de vue sublime, à partir duquel la raison ou la philosophie voudrait s'auto-justifier puis englober le réel, nature, société, histoire, que ce soit pour le justifier ou pour le critiquer, est illusoire. La prétention au point de vue critique absolu, qui est si prégnante sous des formes diverses dans la philosophie contemporaine, quand elle se veut post-kantienne, post-marxiste, post-nietzschéenne, et dans toutes les pensées qui se regroupent aujourd'hui sous l'étiquette « théorie critique », n'est pas moins trompeuse ni dangereuse que la prétention plus classique, phénoménologique ou ontothéologique, si on veut employer ce terme, au fondement. Cette idée est centrale dans Le philosophe chez les autophages. Je cite « Ce n'est pas seulement lorsqu'elles sont orientées vers le fondement et la légitimation, mais également lorsqu'elles sont censées représenter une critique radicale, une démystification ou une condamnation, que nos tentatives d'explication et de rationalisation se révèlent la plupart du temps insatisfaisantes et erronées. Pourquoi ? Parce que si elles tentent de s'auto-légitimer, la raison critique tend inévitablement et simultanément à la totalisation, d'une part, et à l'autodestruction de l'autre. Alors certes, ça n'avait pas échappé aux auteurs de la dialectique de la Aufklärung, qui écrivent non seulement la tendance idéale, mais également la tendance pratique à l'auto-annihilation appartient à la rationalité dès le début, et pas du tout uniquement dans la phase dans laquelle la tendance en question se manifeste sans aucun voile. Commentaire de Bouveresse, immédiatement après cette citation. Cette situation s'explique aisément si l'on considère que la raison en tant qu'instance essentiellement critique ne peut remplir efficacement la fonction de légitimation qui est normalement dévolue au mythe et ne saurait, en dernière analyse, reculer devant la mise en question radicale de sa propre légitimité. Je ferai le commentaire suivant là-dessus, c'est que malgré sa lucidité suraiguë et sa virtuosité vertigineuse dans le maniement de la critique et de l'autocritique, Adorno s'est, me semble-t-il, enferré dans cette impasse. Par contraste, et je continue de lire « Le philosophe chez les autophages », sur lequel je vais m'appuyer jusqu'à la fin de cette quatrième leçon, la force de la critique de Wittgenstein provient en grande partie du fait qu'elle renonce délibérément à toutes les prétentions universalisantes et totalisantes qui ont pour effet de dépouiller la critique elle-même de toute espèce de légitimité, de point d'appui et finalement de signification. Et elle ne revendique aucune position privilégiée et protégée à partir de laquelle la clarté philosophique pourrait être répandue sur la confusion ambiante. Un peu plus loin, une page plus loin, Bouveresse cite Cavell, qui explique judicieusement ceci. « L'originalité de Wittgenstein réside dans le fait qu'il a développé des modes de critique qui ne sont pas moralistes, c'est-à-dire qui ne permettent pas au critique de s'imaginer qu'il est lui-même exempt des fautes qu'il voit autour de lui, et qui opèrent non pas en essayant d'établir la fausseté ou l'erreur d'un énoncé donné, mais en montrant que la personne qui formule une assertion ne sait pas réellement ce qu'elle veut dire, n'a pas réellement dit ce qu'elle voulait. Alors, les modes critiques qui échappent à la sublimation, à la totalisation, à l'autodestruction ou à l'autophagie sont ceux de la satire. Toujours dans Le philosophe chez les autophages, la contestation qui utilise essentiellement les armes de la satire et de la dérision jouit d'un avantage incontestable par rapport à la critique sérieuse parce qu'elle opère au premier degré en ignorant la préoccupation réflexive de l'auto-légitimation et également le souci de la crédibilité et de l'efficacité. Autrement dit, les usages de la raison qui offrent le moins de prise à la complaisance et à l'auto-mystification philosophique, ce n'est pas exactement chez des rationalistes déclarés que Bouveresse les trouve, pas même chez Russell ou chez les Viennois, c'est chez Wittgenstein. Je cite encore, « La critique de la philosophie et de la culture et de la société qu'on trouve dans les textes de Wittgenstein est manifestement du type satirique ou ironique, plutôt que théorique ou constructif. Elle n'est pas tourmentée par la question de sa propre légitimité, parce qu'elle s'appuie en dernière analyse sur une réaction d'hostilité et d'incompréhension, plus ou moins instinctive, qu'elle s'efforce de clarifier, et non à proprement parler de justifier, à l'égard de la civilisation actuelle, de ses modes de pensée, d'expression et de ses objectifs. Elle fait appel chez le lecteur à quelque chose de beaucoup plus élémentaire, et plus puissant qu'une conviction théorique, à savoir une capacité de résistance et de rébellion qu'elle n'est pas en mesure de créer de toute pièce et sans laquelle elle ne peut avoir aucun effet réel. » Ce qui m'amène très logiquement à la cinquième leçon du tempérament. Cette dernière remarque, en effet, permet de mieux délimiter la place et le rôle de la raison. Assurément, elle seule fournit des justifications et le moyen de trier entre les affirmations, donc d'écarter celles qui ne sont pas ou pas insuffisamment justifiées, ou pas suffisamment justifiées, pardon. Mais de même que dans l'examen des thèses et des opinions, on doit finir par s'appuyer sur des raisons qui justifient sans avoir à être justifiées, de la même manière, ce n'est pas la raison elle-même qui peut fournir à l'activité du philosophe son impulsion et son orientation première. Cette antériorité, voire cette priorité de l'instinct et de la volonté sur les raisons, est ouvertement assumée par Bouveresse, et elle est pour lui si caractéristique d'un rationalisme conséquent qu'il la place dans le philosophe et le réel, sous l'égide de Leibniz. Défendre la raison et l'intellect n'est pas être intellectualiste. Et ce n'est pas seulement chez moi, je crois que les acceptations et les refus ont presque toujours initialement quelque chose de quasi-instinctif. Même les plus grands rationalistes, y compris Leibniz, ont admis le plus souvent que les raisons viennent après. Autrement dit, la capacité de résistance aux diverses formes de domination intellectuelle et d'emprise spirituelle qui règnent en philosophie, ou plus généralement, la capacité de s'écarter des enchaînements d'idées admis, de refuser les dilemmes imposés, exige d'abord un certain tempérament intellectuel. Je ne dirais pas que le philosophe est une affaire de tempérament, dit Bouveresse, mais il faut avoir un tempérament intellectuel d'une certaine sorte pour être capable, dans diverses circonstances, de résister aux convictions obligatoires. Des raisons purement intellectuelles ne suffiraient pas. Et la raison que donne ici Bouveresse mérite l'attention. Des raisons intellectuelles, pour autant qu'elles soient disponibles, pourraient agir aussi bien sur d'autres. Mais qu'une personne plutôt qu'une autre soit capable d'opposer un refus quand presque tout le monde dit oui, ça dépend d'autre chose qui est difficile à définir, mais qui relève certainement plus de l'instinct et de la volonté que du raisonnement. Alors, ce à quoi on a affaire ici, ce n'est pas simplement l'idée kantienne qu'outre la raison, il faut le courage de s'en servir. C'est l'idée que, de même que pour qu'un minimum de justice existe, il faut que soit enraciné dans des individus le sentiment du caractère insupportable des injustices et la détermination à y mettre un terme, quel que soit le prix. De même, Pour qu'un minimum de raison existe en philosophie, il faut que soit enraciné dans des individus le sentiment du caractère injustifiable de certaines croyances ou de certaines idées et la détermination à ne pas se laisser raconter d'histoire ni à s'en inventer, quel que soit le prix à payer en insatisfaction intellectuelle, inconfort psychologique ou désillusion existentielle. C'est cela le tempérament. Et celui-ci est plus décisif, en un certain sens, que les connaissances dans l'exercice de la philosophie, et la vérité ou l'erreur en dépendent pour une large part. Comme le dit David Stove, qui est un autre rationaliste satiriste qu'approuve ici Bouveresse, les défauts de connaissances empiriques ont moins à voir avec les façons dont nous nous trompons en philosophie que les défauts de caractère, des choses comme la simple incapacité de se taire, la volonté d'être considéré comme profond, la soif de pouvoir, la peur en particulier d'un univers indifférent, ces choses-là font partie des sources émotionnelles évidentes de la mauvaise philosophie. Mais ce n'est pas seulement que des failles psychologiques et morales sont la source d'erreurs philosophiques, c'est que plus radicalement, le renoncement qu'implique la clarification des problèmes philosophiques étant un renoncement à ce qu'on voudrait voir, la clairvoyance en philosophie est d'abord et avant tout, comme Wittgenstein n'a cessé de le rappeler, une affaire de volonté. Pour lui, écrit Bouveresse, la difficulté en philosophie ne tient pas du tout à la nécessité d'acquérir une information ou une compétence spéciale sur des questions particulièrement ésotériques, mais à un conflit qui existe entre ce que l'on a sous les yeux et ce que l'on voudrait voir. Et selon une formule célèbre de Wittgenstein, ce n'est pas une difficulté de l'intellect, mais de la volonté qui doit être surmontée. Alors ici, je vais extrêmement vite sur la place de la connaissance dans la philosophie, plus généralement sur les relations entre connaissance et liberté. Il faudrait pouvoir s'arrêter, parler de l'insistance de Bouveresse sur le fait que le savoir n'est pas intrinsèquement libérateur, de son désaccord avec Bourdieu à ce sujet, du dualisme critique de Popper qu'il revendique, mais aussi bien sûr de ce que Kevin Mulligan a appelé le postulat de Musil, des applications que Bouveresse en a faites, de la critique qu'il adresse à Wittgenstein sur ce point, il y a tout un exposé à faire là-dessus. Bon. Ce qui m'importe avant tout ici, c'est l'idée que l'activité philosophique étant d'abord un travail sur soi, sur ses conceptions, l'usage de la raison en philosophie implique un degré de volontarisme et une solitude intellectuelle et morale qu'on ne rencontre pas dans les sciences. Et c'est à nouveau sur le philosophe chez les autophages que je m'appuie ici, à la différence de ce qui se passe dans la recherche scientifique, où l'individu peut profiter des acquis antérieurs sans être obligé de fournir à nouveau les mêmes efforts que ses prédécesseurs. La cure philosophique ne peut être qu'une chose strictement personnelle. Wittgenstein constate que le philosophe n'est pas le citoyen d'une communauté de pensée et que c'est justement ce qui fait de lui un philosophe. Et Bouveresse poursuit, « S'il y avait une communauté philosophique, elle ne pourrait être une communauté de savoir, mais seulement une communauté de vouloir, dont les membres ont à la fois les mêmes tentations intellectuelles et la même volonté de les combattre. » Alors, quoi qu'il ait du respect pour les membres des unions rationalistes, Bouveresse n'a jamais imaginé, je crois, d'adhérer à aucune d'elles. Les exigences de logique et de rationalité dans le domaine de la pensée ont même à ses yeux quelque chose d'asocial, voire d'antisocial dans certains cas, comme il le souligne dans le commentaire d'un passage des Hauteurs béantes de Zinoviev. L'exigence de logique, de rationalité, de transparence, qui coïncide en profondeur avec l'exigence de moralité elle-même, ne peut être que le fait d'une minorité insignifiante de dissidents et d'asociaux. Et c'est la volonté d'introduire une exigence de ce genre dans l'analyse et la compréhension des mécanismes sociaux et politiques qui transforme l'intellectuel en individu dangereux pour la société, pour la collectivité. Et c'est justement au rationalisme, et même s'il est permis d'utiliser un terme aussi injurieux, au positivisme implacable de sa méthode, je veux dire à la façon très remarquable de considérer qu'un exposé des faits peut constituer la meilleure théorie, que la description de Zinoviev doit son efficacité critique et sa puissance satirique insurpassable. Sixième leçon, du pouvoir et des mots. Alors, ne pas se raconter d'histoire en philosophie, c'est d'abord ne pas s'en laisser compter par les mots, ou plus exactement par les croyances qui attribuent aux mots de la philosophie des pouvoirs qu'ils n'ont pas et ne sauraient avoir. Le nœud de la difficulté est clairement posé par Valéry, l'antiphilosophe. Voici ce que dit Bouveresse. La raison pour laquelle la philosophie est, selon lui, irrémédiablement condamnée à l'illusion, à l'impuissance, consiste dans le fait que la philosophie dépend entièrement du langage, plus précisément du langage ordinaire, une dépendance dont les sciences ont réussi au contraire à s'affranchir, au maximum, et qu'elle est en même temps, elle, la philosophie, à la différence de la poésie, constitutivement empêchée de reconnaître et éventuellement d'utiliser de façon positive cette dépendance. Mais qu'advient-il si un philosophe qui reconnaît pleinement cette dépendance ne désespère pas pour autant de l'utiliser de façon positive ? Ben, il faut qu'il maintienne en lui et qu'il aiguise en permanence une capacité à se déprendre des illusions constitutivement engendrées par la philosophie, autrement dit, de cultiver une certaine forme d'antiphilosophie. Je cite, « Notre philosophie, en effet, n'est pas, ou en tout cas pas naturellement comme elle le voudrait, l'expression de la distance et de la conscience critique, mais bel et bien celle d'un envoûtement par les formes de notre langage. » Donc user de sa raison en philosophie, c'est notamment avec Valéry refuser de croire que les mots savent plus que nous, contiennent plus que nous, et même, comme dit Valéry joliment, plus que l'homo, H-O-M-O. C'est reconnaître également avec Rorty que les concepts ne font rien par eux-mêmes, qu'ils sont essentiellement des instruments dont nous nous servons, et que c'est toujours nous qui faisons des choses avec les concepts. Et c'est, plus difficile sans doute, rompre avec l'idée que l'on pourrait, sans avoir à exploiter autre chose que les ressources du langage, parvenir à une connaissance de la nature réelle et intime des choses, encore une formule de Valéry, croyance étroitement liée à tout ce qui se présente, me semble-t-il, comme un besoin métaphysique. Alors, bien entendu, les philosophes qui affichent ces croyances n'ont pas en réalité, ces croyances dans le pouvoir des mots, n'ont pas en réalité les pouvoirs auxquels ils prétendent. Les philosophes présument peut-être beaucoup de leur force quand ils se croient en mesure de décréter, en quelque sorte, à un certain stade de l'évolution historique, telle qu'ils la comprennent, la disparition de notions qui, considérées du point de vue ordinaire, pré-théorique et pré-philosophique, continuent à apparaître absolument indispensables et fondamentales et n'ont probablement pas besoin de l'approbation des philosophes pour le rester. Mais ces notions ordinaires, comme celle de vérité dont il a été question dans l'exposé de Bouveresse lundi soir, ont besoin d'être défendues car, certes, les philosophes n'ont pas sur elles les pouvoirs qu'ils croient, mais à partir du moment où ils parviennent à faire que les gens croient au pouvoir de leurs mots ou à leur pouvoir sur les mots, ils acquièrent, les philosophes, sur les esprits des pouvoirs bien réels. Je cite encore, « Le philosophe spéculatif, c'est selon Valéry, ne se borne pas à produire des excitations intellectuelles de l'ivresse conceptuelle de l'illusion et de la confusion. Comme dit Valéry, il voudrait bien le sorcier déplacer une masse, élever la température d'un corps, sans agir qu'au-dedans de soi. Mais il a dû se borner à mouvoir des hommes, des passions, des images. » Septième leçon de l'essayisme. Dans la demande philosophique, Bouveresse écrit « Il faut se représenter ce qu'était la philosophie française au début des années 60 pour se rendre compte à quel point la façon qu'avait Vuillemin de démontrer par la théorie et par l'exemple qu'il était possible de traiter les choses inexactes dont s'occupe la philosophie avec un degré d'exactitude et de précision bien supérieur à celui dont on se contente généralement était une chose nouvelle et a été déterminante pour certains d'entre nous. » Et on ne peut manquer, me semble-t-il, d'être frappé par la similitude entre cette caractérisation de l'attitude philosophique à son meilleur et celle du genre de l'essai tel que Bouveresse la tire de Mouzil. Je cite, « Ce que recherche l'essai, c'est que dans ce... et que dans ces moments heureux, il trouve, c'est la formule qui réussit à combiner de façon appropriée l'exactitude maximale que le sujet est en mesure de supporter avec l'inexactitude qu'il conserve aussi nécessairement. C'est la raison pour laquelle, entre les différents genres utilisés par Bouveresse dans son œuvre, celui qui est le plus approprié à son style de pensée est, à mon humble avis, l'essai. Nombre de ses articles et conférences sont des essais, nombre de ses livres, si l'on y regarde bien, sont des essais qui ont pris du volume ou des agencements complexes de plusieurs essais, et même quand il pratique d'autres genres, cours, études, satires, l'essai souvent n'est pas loin. Alors, bien sûr, à l'essayisme comme attitude philosophique, on peut opposer deux objections, au moins. La première, c'est qu'un philosophe essayiste serait nécessairement un philosophe littéraire, c'est-à-dire relâché, sans exactitude, et par conséquent étranger, voire hostile à la raison. Mais cette objection ne tient pas. Je cite, « Mouzil propose de définir l'essai comme consistant non pas à laisser tomber certaines exigences et à s'octroyer un certain relâchement dans un domaine où l'on peut travailler exactement, mais plutôt à parvenir à la plus grande rigueur que l'on peut atteindre dans un domaine où l'on ne peut justement pas travailler exactement. Il ne s'agit donc pas d'être moins exact dans un domaine où on pourrait en principe l'être davantage, mais de l'être beaucoup plus dans un domaine où on ne peut pas l'être tout à fait. Le point crucial, c'est donc de savoir quel genre d'exactitude est adéquat en philosophie et quel genre est inapproprié. Et Mouzil oppose à ce propos l'exactitude pédante à l'exactitude imaginaire ou fantastique, fantastisch en allemand, une opposition que Bouveresse résume ainsi. L'exactitude pédante, que l'on pourrait appeler aussi scolastique, prend son désir de précision pour la réalité et se réfugie dans des concepts qui permettent de traiter le vague comme s'il était malgré tout précis, alors que l'exactitude fantastique s'efforce d'en reconnaître simplement l'imprécision. L'exactitude fantastique n'est rien d'autre que l'exactitude de l'imagination elle-même, celle dont elle fait preuve quand elle décide de s'en tenir aux faits, par opposition à l'exactitude pédante qui s'en tient, c'est Mouzil qui le dit, à des constructions figées de l'imagination et à des idées. Alors la seconde objection à l'essayisme philosophique ou à l'essayisme en philosophie me paraît beaucoup plus forte. C'est qu'alors que l'exigence de vérité est inséparable de la philosophie, l'essai mousilien aurait affaire plutôt aux questions de signification. L'essai, pour Mouzil, dit Bouveresse, semble avoir affaire beaucoup plus qu'à la question de la vérité ou de la fausseté proprement dite, à celle de la signification et du changement de signification que subissent les choses, les actions, les hommes, lorsqu'on modifie l'ensemble auquel ils sont intégrés. Le principe de l'essai est donc un principe de variation. Ce qui est déterminant dans l'idée de l'essai, c'est l'idée du changement d'aspect, de la pluralité, de la variabilité essentielle des points de vue possibles, et le perspectivisme et le contextualisme qui en découlent. L'essai ainsi défini admet, d'une certaine manière, la contradiction. On peut contredire quelqu'un sans le rabaisser, écrit Mouzil, et surtout dans le domaine de l'essayisme au sens le plus large, plusieurs opinions doivent être valables en même temps. Cette situation est évidemment à mettre en rapport avec le fait que déjà à l'intérieur de l'essai lui-même, les pensées peuvent se contredire sans pour autant s'exclure et ne sont pas supposées, comme ce serait le cas dans une production scientifique, s'additionner en une vérité. Alors, l'essai philosophique ne pourrait assurément ni abandonner l'exigence de la vérité ni endosser simultanément des opinions contradictoires sans cesser d'être philosophique ou n'être plus que de la mauvaise philosophie. Mais il n'y a rien là qui doive conduire, me semble-t-il, à renoncer à l'essayisme en philosophie ou à considérer que celui-ci trahirait le rationalisme, pour deux raisons au moins. Premièrement, c'est que si, comme on l'a dit dans la troisième leçon, je cite, « la manière dont on peut convaincre quelqu'un de quelque chose en philosophie ressemble beaucoup à la manière dont on peut amener quelqu'un à une certaine position sur un problème éthique ou esthétique », et bien peu à ce qu'on appelle d'ordinaire une démonstration ou une preuve, l'essai au sens mousilien, comme principe de variation, est un genre approprié à la philosophie. Et deuxièmement, c'est qu'un problème philosophique se présente souvent sous la forme suivante. Nous avons de bonnes raisons de vouloir dire paix, nous avons aussi de bonnes raisons de vouloir dire non-paix. Et la meilleure chose que nous ayons à faire est d'essayer de parcourir le réseau labyrinthique de toutes ces raisons pour essayer, déjà, d'y voir plus clair. Dans un tel cas, non seulement nous ne sommes pas tenus de trancher, mais ce serait le plus souvent prendre une décision irrationnelle et arbitraire, car elle impliquerait d'étouffer ou d'écraser des raisons qui, dans la situation de problème en question, se présentent à nous comme des raisons objectives. Et la bêtise, là, serait de conclure. Ce qui me conduit à la huitième et pour aujourd'hui dernière leçon, de l'inachèvement et du silence. Une autre tendance inhérente à la philosophie, en effet, qui est favorable au dictateur, je l'ai déjà suggéré, c'est la volonté de totalisation. Le philosophe, écrit Mouzil, a un besoin plus fort que le romancier ou que le dramaturge de faire de ses pensées une manie, une intégralité. Ce n'est pas un degré plus élevé d'intellectualité vrai, mais une autre attitude psychique. Bouveresse commente, c'est précisément cette relation monomaniaque et cette volonté de totalisation qui empêche le philosophe de mettre réellement ses idées à l'épreuve en acceptant de les faire opérer concrètement dans un certain contexte réel ou fictionnel et donc nécessairement de les relativiser. Alors, combattre cette attitude psychique monomaniaque exige, comme on l'a vu dans la première leçon, de reconnaître et de faire reconnaître que l'indécision, l'inachèvement, l'ouverture, non seulement ne sont pas des faiblesses, mais devraient être des vertus philosophiques cardinales. Et le modèle ici, c'est l'attitude scientifique, telle qu'elle est caractérisée notamment par Marx, lorsqu'il écrit que la suprême philosophie du chercheur dans les sciences de la nature consiste précisément à supporter une vision du monde inachevée et à la préférer à une vision du monde close mais insuffisante. Bouveresse commente, l'exemplarité de la science réside avant tout dans le fait qu'elle a appris à se concevoir et à s'accepter comme une solution indéfiniment partielle, ce que la philosophie n'est généralement pas parvenue à faire et est peut-être par nature incapable de faire. Alors, l'inachèvement est supportable pour le scientifique parce qu'il sait que ses résultats seront repris par d'autres, fût-ce pour être critiqué et dépassé. Il est plus difficilement supportable pour les philosophes parce que le reconnaître, c'est accepter, au moins pour un temps, de se taire. Comme le dit Wittgenstein, la difficulté principale en philosophie est de ne pas en dire plus qu'on en sait et, bien entendu, a fortiori, de ne pas en dire plus que l'on ne croit. Dans l'art, écrit encore Wittgenstein, il est difficile de dire quelque chose qui soit aussi bon que ne rien dire. Et Bouveresse poursuit, c'est évidemment encore bien plus vrai de la métaphysique et de la morale, c'est pourquoi je dirais volontiers, comme Stern, et de façon tout à fait sérieuse, je regarde avec respect un chapitre dans lequel il n'y a rien, il n'y a que rien, considérant qu'il y en a de plus mauvais dans le monde. Ce n'est pas une boutade. Si, comme l'écrit Bouveresse dans Les Positivistes, la philosophie est ou devrait être pour une part essentielle l'art de traiter correctement ce qu'on ignore, user de sa raison en philosophie implique de prendre cette maxime de Stern tout à fait au sérieux et de la mettre en pratique. Je vous remercie.
Nous allons maintenant écouter les réactions de Jacques Bouveresse.
Oh, je n'aurai pas le temps d'exprimer beaucoup de réactions. Du reste, Jacques Rosa et moi avons eu tellement d'occasions de dialoguer que nous serions exposés à répéter des choses. Enfin, que nous nous sommes dites, en tout cas, pas forcément que nous avons dites publiquement. Alors j'ai été très, très, très surpris, en un sens assez agréablement surpris en vous écoutant, parce que je ne me souvenais pas d'avoir dit autant de choses, disons, sinon vraies, du moins plausibles, à propos de la philosophie. Donc, vous avez cité un bon nombre de déclarations que j'ai faites, parfois dans des livres déjà relativement anciens. Je crois que Le philosophe chez les autophages, c'est quoi, 84. Donc, c'est toujours assez agréable de pouvoir se dire que son moi philosophique d'aujourd'hui n'est pas spécialement choqué par des choses que le moi philosophique d'hier a pu penser et dire. Alors, il y a une multitude de choses. Évidemment, comme vous avez divisé votre exposé en 8 parties, par essence, on est obligé de se borner à parler de quelques-unes d'entre elles. Il y a quelque chose qui est tout à fait déterminant, vous avez souligné à juste titre dans l'attitude que j'ai adoptée sur cette question de l'usage de la raison en philosophie, c'est la question de la réfutabilité et même de la discutabilité des positions philosophiques, hein, plus précisément du système philosophique. Alors j'étais choqué depuis le début, j'avoue, de façon presque maladive, hein, par cette espèce d'interdiction d'essayer de réfuter des positions et des affirmations philosophiques. C'est une attitude qui a été défendue par des gens qui, à première vue, étaient très éloignés les uns des autres. Il n'y a pas tellement de différence de ce point de vue entre Villemin et Deleuze. Hein. C'est dans les deux cas, et l'inspection générale. Hein. C'est en gros, on ne discute pas un grand philosophe. Et encore moins, on le réfute. Hein. Alors je crois que c'est dans les propos sur la littérature d'Alain qu'il y a un passage qui est presque paradigmatique, malheureusement je ne l'ai pas apporté, où il dit en gros que corriger Platon c'est ridicule, c'est-à-dire l'idée que Platon aurait pu dire des choses qui sont extraordinairement importantes pour nous et en même temps commettre des erreurs qui peuvent être identifiées clairement comme telles sur d'autres points, c'est une chose qui est impensable. Donc on peut pas, une philosophie doit être acceptée ou rejetée comme un tout, hein, qui est je crois la conception la plus répandue. J'ai toujours défendu une conception différente, comme vous l'avez rappelé, ce qui oblige à adopter une conception non pas holiste, mais moléculariste, du coup, parce que ça veut dire qu'il y a des propositions, il y a des assertions de Platon qu'on peut se sentir en droit de discuter, tout en acceptant d'autres. Donc ça, c'est une chose qui a été tout à fait déterminante dans l'attitude que j'ai adoptée, qu'elle soit défendable ou non, ça c'est un autre problème. En relation avec ça, je me souviens d'une chose que Wittgenstein a dite. Alors lui, évidemment, j'ai été dans une situation tout à fait différente de celle de Wittgenstein, parce que Wittgenstein ne venait pas de la philosophie, mais de l'ingénierie. Donc il n'a pas eu de formation philosophique, c'est-à-dire que moi, je suis censé avoir eu ce qu'on peut rêver de mieux en matière de formation philosophique, en tout cas à la française. Et Wittgenstein a dit que, quand il a commencé à lire les philosophes, il a dit « Je me suis aperçu que les philosophes que j'avais admirés dans l'ignorance étaient stupides et commettaient des erreurs répugnantes. » Et alors, je ne peux pas dire que j'ai admiré les philosophes dans l'ignorance, puisque j'étais censé les connaître, puisque j'avais reçu une formation philosophique très poussée. J'ai néanmoins eu l'outrecuidance de penser que certains d'entre eux, et même un bon nombre d'entre eux, commettaient des erreurs souvent élémentaires et que ça posait un véritable problème. Mais ça, c'est, comme vous savez, le genre de choses qu'on ne peut pas dire. C'est à peu près impossible. Une idée qui est à peu près impossible à faire accepter. Ce qui fait qu'une bonne partie de mes problèmes sont venus de ce que j'appellerais une tendance vraiment à sacraliser la tradition philosophique qui persiste évidemment chez les déconstructionnistes, hein, qui est même élevé au plus haut degré. On pourrait s'attendre, évidemment, à ce que les ironistes comme Derrida, si on veut bien admettre que Derrida est un ironiste, parce que c'est de cette façon que Rorty le considère, personnellement j'ai des doutes, hein, sur le fait que Derrida ait été un véritable ironiste, mais je pense que, si on va par là, Valéry l'est bien plus, évidemment, dans sa façon de parler de la philosophie que Derrida. Mais en tout cas, cette attitude a quelque chose qui est assez difficile à comprendre, parce que je me souviens d'avoir, Bourdieu et moi avons parlé de temps en temps de ça. Évidemment, Bourdieu se sentait directement concerné par ce problème, puisqu'il a trait à la question de savoir si on a ou non le droit de critiquer sur le fond une doctrine philosophique. Et on se disait que pour certains philosophes, même, je pense, pour un bon nombre de philosophes, la chose la plus stupide dite par un philosophe est forcément encore plus intelligente que la chose la plus intelligente dite par un scientifique. Et j'ai eu très souvent cette impression dans les discussions que j'ai pu avoir sur ce problème. Alors là, évidemment, je suis le mauvais esprit intégral sur ce point, parce qu'il n'y a pour moi rien de sacré dans la tradition philosophique. Je pense que Jean-Mathias Fleury va parler un peu de ce problème et de l'attitude que j'ai adoptée à l'égard de la tradition philosophique. Alors, deux choses encore. Il y a évidemment cette question sur laquelle vous avez insisté à juste titre, de la question du tempérament. Hein, c'est-à-dire, ça c'est une question, oui, qui m'a beaucoup préoccupé. Je me suis souvent demandé pourquoi je m'étais comporté comme je l'avais fait. Évidemment, on est obligé de se poser cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai presque dès le début, hein, occupé la position que j'ai occupée, une position de refus, plus ou moins bien inspirée du reste, parce que, bon, c'est pas sûr qu'on s'y prenne toujours. Enfin, on peut avoir entièrement raison de, de refuser et en même temps s'y prendre très mal pour exprimer le refus. Ça, il est possible que ce soit ce qui m'est arrivé. Beaucoup de gens m'ont dit que ça avait été le cas. Mais en tout cas, vous avez eu raison, hein, d'insister sur cette question du tempérament, hein, c'est-à-dire ce qui fait que là où tout le monde dit oui, on se sent, je pense qu'il est exact de dire instinctivement, hein, obligé de dire non. Pourquoi le fait-on ? Il est certain que la réponse ne peut pas être complètement intellectuelle. Mais en même temps, il n'est pas très agréable d'être obligé de se dire que la raison pourrait être psychologique, sociologique ou autre. C'est toujours un peu... On aimerait croire, hein, on aimerait croire que les positions qu'on a adoptées ont été constamment des positions complètement... des positions intellectuelles et rationnelles. Hein. C'est malheureusement, je crois, à peu près impossible. Enfin, c'est ce qu'on aimerait croire. Alors, dernière remarque très brève, ça concerne le problème de l'essai. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir être traité comme un essayiste. Bon, au bon sens du terme, mais malheureusement, je crois que ça, c'est quelque chose dont je suis tout à fait incapable. C'est-à-dire, je n'ai jamais été, je pense, pour des raisons stylistiques, bon, je ne suis pas capable d'écrire des essais au sens, par exemple, où des gens comme Benjamin ou Adorno écrivaient des essais. Hein, je veux dire, je n'ai pas cette aptitude à l'écriture. Ça pose le problème que vous vous êtes posé aussi, hein, de savoir quelle relation j'ai avec l'écriture, on en a parlé, je crois, dans les entretiens qu'on a eus. Mais, alors, peut-être que je peux être considéré comme un essayiste dans un autre sens. Si vous voulez, à la rigueur, je suis d'accord. Mais si on réfléchit à ce qu'a été l'essai au bon sens du terme, hein, je mentionnais Adorno parce que c'est pour moi un exemple typique, pas forcément un exemple que je suis enclin à prouver, pour ce qui est du contenu, mais pour ce qui est de la façon d'écrire, je dois avouer honnêtement que j'aurais aimé être davantage capable d'écrire de cette façon, mais en mettant l'écriture au service d'une meilleure cause que ne l'ont fait la plupart du temps les gens comme Adorno, parce que vous connaissez toutes les réserves que j'ai à l'égard d'Adorno, hein, en ce qui concerne le contenu. Et là, ça, c'est une question vraiment difficile, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, bon, je me souviens, j'ai écrit un article sur Gottfried Benn, qui s'intitulait « Gottfried Benn ou le peu de réalité et le trop de raison », où je sais pas, j'ai l'impression, en le relisant rétrospectivement, que j'étais peut-être pas intrinsèquement incapable d'écrire comme ça, mais que je n'ai pas voulu le faire. Et encore aujourd'hui, et aujourd'hui je veux moins que jamais. Bon, mais ça c'est encore un autre problème. En tout cas, je vous remercie mille fois pour tout ce que vous m'avez fait comprendre, parce que encore une fois, je soupçonnais pas ou j'avais un peu oublié que j'avais dit autant de choses que j'espère, sinon vraies, du moins encore une fois plausibles concernant ce qu'est et ce que n'est pas la philosophie. Merci à vous.
Juste une petite remarque au sujet de la question de l'essayisme. Je pensais à l'essayisme comme attitude intellectuelle, mais en même temps, il me semble que si on prend... J'ai commencé, pas par hasard, par citer « La science sourit dans sa barbe », par exemple. Je ne vois pas ce qui vous permet de dire que ce n'est pas un essai au plein sens du terme, ou que la vengeance de Spengler, ou que même la conférence « Comment s'orienter qu'est-ce que s'orienter dans la pensée », par exemple, je trouve tout à fait le statut, mais bon.
Oui, peut-être la science sourit dans sa barbe, oui, ça je suis. Mais c'est un essai de jeunesse, ça, vraiment.